Je voudrais vous saluer de nouveau tous, dire que je suis très très contente d'avoir été invitée d'abord, et puis d'avoir assisté à cette journée très riche qui nous interpelle tous et toutes par rapport donc non seulement à notre contexte national réciproque, mais aussi à tout le contexte international. L'AFTURD, en deux mots, c'est l'association tunisienne des femmes pour la recherche dans le développement. C'est une association qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Nous avons fêté l'année dernière notre 30e anniversaire. Et bien sûr, c'est une association, on va dire, comme une deuxième aussi association qui est notre sœur jumelle, qui existe et qui est très, très présente sur le terrain. J'ai intitulé mon intervention « Pas de démocratie sans les femmes ». Je crois que là, nous sommes tous d'accord. Et pour nous, il ne faut pas que ça soit un slogan. Je voudrais juste rappeler quand même que la Tunisie est souvent citée comme un pays qui a une exception dans le monde arabo-musulman. D'abord en raison du statut quand même privilégié dont les Tunisiennes jouiraient, je souligne le conditionnel. La Tunisie est également citée depuis le déclenchement des révolutions arabes comme une autre exception, car elle demeure à ce jour le seul pays qui a réussi à garder le cap de sa transition démocratique. Merci. Alors, une question. Je vous donnerai la parole tout à l'heure.
Non.
Répondre à cette question, la question, c'est le statut des femmes tunisiennes et le rôle qu'elles ont joué durant la révolution et la transition démocratique, sont-ils des facteurs de réussite de cette transition? Alors, répondre à cette question va m'amener à examiner deux des nombreuses revendications du mouvement féministe tunisien. J'en citerai deux, il y en a beaucoup, mais enfin, pour ne pas être trop longue, je citerai l'exemple de la parité effective dans les instances élus. Deuxième exemple, la question de l'héritage, l'égalité dans l'héritage. Alors, ces deux exemples vont nous aider à voir si droits des femmes et marche vers la démocratie ont suivi ou non la même trajectoire. Pour ce faire, permettez-moi de faire un petit détour historique, mais très court, pour parler de la lutte des Tunisiennes déjà avant la Révolution. Vous savez que la Tunisie, le cas de la Tunisie, s'inscrit dans une mouvance émancipatrice portée par des femmes et des hommes à la faveur des mouvements de lutte pour l'indépendance. Je citerai quand même notre chère et regrettée, pas Bourguiba, pas encore, Taher Haddad, qui est un penseur, un homme politique, un syndicaliste tunisien, qui fut un des premiers a soulevé la question du statut personnel des femmes dès 1930, défendant l'égalité totale, y compris en matière d'héritage. Retenez ce nom, je crois qu'il est très important pour nous. Dès l'indépendance en 1956, Bourguiba, premier président tunisien, fut un des premiers à soulever aussi la question du statut personnel des femmes dans le sillon un peu de Taher Haddad. Bien sûr, avec des réformes que maintenant tout le monde connaît, droit de vote pour les Tunisiennes dès 1956, scolarisation des filles obligatoire et gratuite, code du statut personnel, abolissant la polygamie, la répudiation, instituant le mariage civil, etc. À partir du milieu des années 60, la Tunisie est quand même marquée par un féminisme d'État, avec récupération politique par l'ancien régime et notamment par le régime de Ben Ali. C'est ainsi que des femmes se sont engagées de manière plus large dans la lutte contre ce régime et ses orientations politiques et économiques au sein des syndicats, des quelques partis d'opposition, il en existait, des mouvements estudiantins, des organisations de défense des droits et libertés. C'est ce mouvement-là, donc qui, les femmes n'ont pas été seules, bien sûr, à le porter, avait surtout pour objectif de dénoncer, bien sûr, les falsifications d'élections, et on va y venir, et les atteintes aux libertés. Bien sûr, les plus féministes parmi elles, de ces associations, et dès 1989, l'AFTUR, que j'ai l'honneur de représenter, et les femmes et l'Association des femmes démocrates, se sont donc mobilisées pour la bataille contre le patriarcat dominant et contre, bien sûr, tous les dysfonctionnements politiques de l'époque. Déjà s'annoncent quand même les prémices de la révolution de 2011, avec notamment les grèves des ouvrières du textile au centre du pays, Monastir, Sousse, dès 2005, et les mouvements du bassin minier de Gafsa, dans le sud de la Tunisie, où les militantes et les militants, bien sûr, avec d'autres acteurs de la société civile, ont participé aux mouvements sociaux de 2008. Parce que, bon, on a dit, la révolution de 2011 est née comme ça, de façon soudaine. Non, il y avait des prémices, il y avait des choses qui ont préparé cela. Bien sûr, après tout cela, vint la révolution de 2011. Là encore, une large participation aux mobilisations politiques et populaires après le 14 janvier 2011, sitting, manifestations, participation aux grèves générales, régionales, périodiques, organisées par l'Union générale des travailleurs tunisiens, par le Conseil de l'Ordre des avocats, par la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et bien sûr, les militantes, dès cette période, vont exiger de peser sur les prises de décision de la période de transition. C'est ainsi qu'elles investissent trois instances importantes où les choix politiques de ce moment-là s'avéraient déterminants pour l'avenir de la transition démocratique. La première instance, c'est la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. Bon, le nom est un peu long, mais quand même est intéressant. Et la réforme politique et donc les objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, pour veiller à la réforme de l'État et des processus électoraux de l'Assemblée qui devait être donc élue. Je signale que plus de 23% de femmes y ont siégé. Quand même très important, parce que, bien sûr, ces trois instances que je vais citer ont été quand même composées sur des critères d'indépendance, bien sûr, après tout ce sursaut révolutionnaire. Bon, bien sûr, cette instance a été chargée de préparer les textes juridiques, notamment ceux organisant les élections de l'Assemblée constituante, de la première Assemblée constituante, celle de 2001. La deuxième instance, c'est la Commission nationale d'établissement des faits sur les affaires de malversation et de corruption de l'ancien régime, dont les membres aussi sont choisis en raison de leur indépendance. Sur les 15 membres, 9 sont des femmes. La troisième instance, c'est la Commission nationale d'investigation sur les dépassements et les violations durant la Révolution, puisqu'il y en a eu, bien sûr, pendant cette période transitoire très difficile. Dans cette instance, cette commission, en fait, c'est une commission, les femmes constituent la moitié des membres de la commission. Bien sûr, plus tard, les organisations de la société civile se sont restructurées et nombre d'entre elles se trouvent présidées par une femme, comme l'instance Vérité et Dignité, qui devait bien sûr travailler sur les problèmes de reconstruction, sur les problèmes l'oppression qui a été subi par les militants de toutes les différentes, bien sûr, obédiences. Deuxième association, l'Organisation nationale de lutte contre la torture, présidée par une femme. Amnesty International, section Tunisie. Ça a changé depuis, mais enfin, à ce moment-là, il y avait une femme à sa tête. La Commission de lutte contre la traite des personnes, encore présidée par une femme. Le Syndicat national des journalistes tunisiens, le Syndicat des magistrats tunisiens, et j'en passe. Ainsi, les femmes se sont imposées comme des actrices essentielles durant la Révolution. Blogueuses, journalistes, avocates, simples citoyennes, décidées à faire avancer le mouvement des droits humains par des alliances interassociatives et un partenariat surtout avec les nouvelles associations féminines et féministes et de droits de l'homme qui ont vu le jour après, à partir de 2012, aussi à l'intérieur du pays. Parce que ça, c'est quand même très important, le nombre d'associations et d'ONG qui ont vu le jour dans les régions du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et ceci, d'ailleurs, à ce propos, quand même, je cite les propos de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, et la vice-présidente de la Commission européenne, qui affirme, je cite, que les femmes ont joué un rôle crucial dans le déclenchement des mutations en cours. Dans un climat de violence, elles se sont engagées dans la lutte pour le changement. Fin de citation. Pour nous, c'est très important pour la Tunisie et l'image de la Tunisie, bien sûr, les témoignages et la reconnaissance de nos chers amis européens. Alors, vint ensuite la saga de l'écriture de la Constitution. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ce ne fut pas une mince affaire. L'expérience de l'engagement féminin pendant cette étape demeure très intéressante. Les différentes versions de la Constitution ont fait l'objet de débats, de mobilisations avec les autres acteurs de la société civile, bien sûr, et les politiques. De vrais bras de fer avec les islamistes. Ah, pourtant, c'était un accouchement difficile avec, bien sûr, des polémiques, avec des conflits, avec des manifestations. J'aurais pu, si j'avais su qu'il y avait un data show, j'aurais pu apporter toutes les images donc des fameuses manifestations qui ont drainé des milliers de Tunisiens et de Tunisiennes pendant la période de l'écriture de la Constitution. Donc tout ce travail a abouti à un remodelage du projet qui s'est vu expurgé de ces éléments polémiques et conflictuels. Ces éléments, c'était la charia, qui n'est plus donc source des lois, la suppression de la notion de complémentarité, parce que les islamistes nous ont sorti dans une des versions que la femme est la complémentaire de l'homme. Nous, on avait dit, on parle d'égalité, on n'a jamais entendu parler de complémentarité. Donc, le mot égalité a été quand même substitué au mot complémentarité. Un travail sur la féminisation du discours de la Constitution, et ça c'est très important sur le plan symbolique, bien sûr, un article sur le droit à l'éducation qui a été réécrit, etc., etc. Alors, maintenant, où en est-on, puisque c'est la question du colloque. Comme je l'ai annoncé au début, deux exemples significatifs pour les droits des femmes et l'évolution de toute la société suffisent pour brosser un tableau, je dirais, en demi-teinte. La question de la parité, et c'est le projet sur l'égalité dans l'héritage. Je dois dire que dès les premières élections, les féministes se sont mobilisées pour imposer le choix historique de la parité sur les listes électorales, c'est-à-dire dans la Constitution, maintenant on parle de parité dans les instances élues. Une décision que certains observateurs ont qualifiée de glorieuse pour le processus de la transition. Bien évidemment, les militantes et les militants voient dans cet acquis la concrétisation de la place égalitaire, bien sûr, dont doit jouir la femme au sein de la société tunisienne. Le processus est pourtant lacunaire. les femmes n'ont finalement représenté que 5% des têtes de liste en 2011. La très grande majorité des têtes de liste étant des hommes, avec pour résultat, après les élections, seuls 24% des sièges revenant à des femmes. C'est devenu après 31% parce qu'il y a eu des nominations d'hommes au gouvernement. Bien sûr, la parité était verticale, c'est-à-dire alternance homme-femme. Même scénario en 2014. Malgré la parité respectée par toutes les listes candidates, on passe à 32%, une petite amélioration. Ce déséquilibre a amené les féministes et leurs alliés à plaider pour ce qui est très important pour nous, très précieux, la parité horizontale. Pour les élections suivantes, pour la parité verticale, vous avez donc un homme, une femme, un homme, une femme. Parfois, accidentellement, une femme, un homme, une femme, un homme. Pour la parité horizontale, les exigences étaient que toutes les listes, je termine dans deux minutes, toutes les listes présidées par une femme, ou donc à parité, 50% femmes, tête de liste et 50%. Donc pour nous, c'est ça. Évidemment, ça a été retenu pour les élections municipales de 2018. Résultat, 47% de femmes ont été élues dans les conseils municipaux, avec 20% de femmes comme présidente de ces conseils, donc comme présidente de la municipalité. Alors, pour nous, c'était rassurant avant les élections de 2019, parce qu'on s'est dit, on va continuer sur cette lancée. Pas du tout, malheureusement. Alors, évidemment, pour nous autres, nouveau combat, nouvelle mobilisation, mais ça n'a pas été voté. La parité horizontale n'a pas été votée. Résultat, 14% de femmes sont seulement 14% sont tête de liste. Résultat des dernières élections qu'on vient de finir, à peine 23%. Donc vous voyez le mouvement de flux et de reflux. Évidemment, nous avons relevé donc toutes les hésitations. Je passe très très vite là-dessus. Deuxième exemple, très vite, l'égalité dans l'héritage. Évidemment, même constat, même hésitation, même résistance et même contradiction. Le projet, comme vous le savez, a été approuvé par le gouvernement en 2018. Il a été présenté au Parlement avant la fin des vacances parlementaires. On s'est organisé, il y a eu une coalition de 80 ONG, un travail pour pousser la commission parlementaire à le discuter et le faire passer en plénière. Rien n'y fait. L'été est arrivé. L'ancien président est décédé. Une élection, course vers, bien sûr, la constitution d'un nouveau gouvernement. Je passe là-dessus. Sauf que quand même, les arguments sont intéressants à rappeler parce qu'on a vu les partis politiques, on a essayé de frapper à toutes les portes. Alors évidemment, très peu de partis politiques, une minorité, se sont prononcés pour ce projet, mais les autres se sont cachés derrière de faux semblants comme, je cite, « ce n'est pas le moment, la société n'est pas assez mûre pour cette réforme, les priorités sont ailleurs, vous touchez au principe du Coran, etc. etc. » Maintenant, quand même, on vient, la semaine dernière, notre nouveau président de la République a prononcé un discours très important à l'occasion de son investiture. Je dois dire qu'entre le candidat Raïs Saïd, donc le candidat avant son élection, qui a affirmé son... C'est très important. Deux minutes, je vous en conjure. je vous assure, regardez, je suis à la fin. Qui a affirmé quand même qu'il n'était pas pour, en disant que la société tunisienne devait rediscuter de tout cela. C'est une demande qui n'émane pas de la société et que quand même le Coran a tranché clairement cette question. C'était Qais Saïd, le candidat. Le président Kais Saïd, que nous avons écouté, donc, dont nous avons écouté le discours la semaine dernière, exactement jour pour jour, quand même affirme, je cite, qu'il n'est pas question de toucher aux droits des femmes, que ces droits seront préservés et qu'ils ont grandement besoin d'être développés, je cite, surtout, je cite, sur le plan économique et social, et que, je cite, la dignité de la patrie réside dans la dignité de ses citoyens et de ses citoyennes sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire, si l'on traduit ces propos en mesures concrètes, puisque c'est ce qui nous intéresse, il faudra légiférer donc par rapport à l'égalité dans l'héritage, puisque ça relève des droits économiques des femmes, puisque l'égalité d'accès aux ressources et de l'égalité de partage, c'est ça qui, que nous attend. Et nous avons un tas d'arguments sur les arguments de type économique. Je vais conclure. Vous voyez, j'arrive, j'y arrive. La Tunisie persévère dans l'action démocratique, mais elle a besoin de vaincre ses vieux démons. L'expression de vieux démons a été citée tout à l'heure par une des amies, je crois, françaises. Elle doit sortir de la posture identitaire et idéologique et dépasser cette ambivalence entre, d'un côté, référence à l'islam, de l'autre, référence à un État civil, affirmé par la Constitution, bien sûr. Elle doit aussi dépasser la dualité référence à des spécificités culturelles et référence à des droits universels. Elle doit aussi trancher entre une vision traditionnaliste de la société et une vision moderniste. La lutte pour une société progressiste continue. Un travail plus approfondi doit être orienté vers les jeunes et une classe politique qui doit en finir avec la polarisation entre modernisme et conservatisme. Je ne peux pas terminer avant de citer cette phrase d'un des militants tunisiens, un homme. Je cite, « La démocratie est un processus d'apprentissage pour ceux qui la prennent au sérieux, avant de devenir un État d'esprit. » Je vous remercie et merci, Monsieur le Président.